Avec un site aussi grand, j'imagine qu'il y avait plein d'espaces, disons, comme indéfinis, quoi, sur lesquels finalement vous n'êtes pas intervenu, que vous avez laissé presque tels qu'ils étaient lorsque vous êtes arrivé, et que j'ai l'impression que ça a été aussi la respiration du site, et que lorsque tu dis tiens, juste en aménageant là, par exemple, tiens, ce petit bâtiment, la maison des voisins, comment ça modifie presque l'organicité ou la manière d'être de la totalité du site, c'est possible parce qu'il y a du jeu. Et lorsqu'un espace et lorsqu'un site est très urbanisé, il n'y a presque plus de jeu. Et donc il y a une tension entre urbanisé, chercher à faire des usages et en même temps faire en sorte qu'il y ait des trous pour que du jeu puisse être possible. C'est la tension entre s'il y a des espaces non aménagés, il y a un risque d'appropriation privée, presque privée de ces espaces-là, d'une certaine manière, de privatisation. Mmh. Et à la fois, il faut quand même laisser, parce que c'est toute une question par rapport au futur quartier, et aussi, par exemple, à la configuration des grands voisins tels qu'ils existent aujourd'hui, entre cour Aubin, oratoire et la chapelle, c'est que on est là dans une configuration où l'urbanisme est plus dense.
Ouais.
Y a une densification des espaces dans leur aménagement qui est liée à la question de la préfiguration.
Ouais.
Où donc là, finalement, on se retrouve avec finalement presque plus ou très peu de ces espaces troués, de ces trous. Moi, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment aujourd'hui, en circulant entre oratoire, Robin et cours de la chapelle et un peu de la lingerie, et là, surtout avec la paire de Colombani, que d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il n'y a presque plus de possibilité de jouer. Il y a un endroit que j'apprécie particulièrement ici, dans cette cour, la cour oratoire dans laquelle on est. C'est le devant de la ressourcerie, là où la ressourcerie étale ses objets, ses vêtements. Il y a un arbre à cet endroit. Et c'est un point en fait de circulation plus intime qui débouche sur la cour de la chapelle, qui est une cour justement, disons, pas investie du point de vue de l'aménagement pensé, qui est laissée un peu aux habitants de l'immeuble en termes d'occupation. Et donc, ça, c'est un espace un peu tampon, doux, je trouve, de passage entre ici, qui est quand même le restaurant où il y a le jeudi, le vendredi, le samedi, énormément de monde quand même, et qui peut, quand on habite ici, ça peut être agressif autant de monde. Et d'avoir cet espace-là qui est plus reculé, derrière cet arbre, voilà, plus caché peut-être, et qui donne l'accès à une cour arrière dont finalement très peu de gens vont parce que l'accès n'est pas visible. Je voudrais vous amener dans un endroit. On peut y aller ?
Oui.
Au Grand Voisin, il y a eu toute une série de discussions qui a consisté à vouloir poser la question de qu'est-ce que c'était que l'identité des Grands Voisins. La poser la question du nous. Il y a un certain nombre de résidents, d'occupants qui, par exemple, ont souhaité qu'il y ait un manifeste des Grands Voisins, ou d'autres qui voulaient qu'il y ait un nous qui s'affirme, qui se définisse, qui se précise. je pense à ça parce que là, donc, on est Courrobin. Et on est dans, ici, quelque chose qui est assez intéressant, c'est une enceinte. On est dans une enceinte. Et donc, quelque chose qui forme un ensemble. Et potentiellement, donc, la question d'un nous qui se joue dans cet ensemble. Et là, la particularité, c'est qu'on a deux portes. C'est-à-dire un porche là et puis un autre porche en face qui va vers ailleurs. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça pose la question du nous, mais ça ne le clôture pas. Et donc ça permet que le nous soit objet de discussion, objet de peut-être de conflictualité, mais qu'il ne puisse être approprié réellement par personne du fait de ces deux portes. Et je me dis que finalement, la construction de quartier par logique d'enceinte comme celle-ci, il y a quelque chose d'un oui, on est là, on forme un ensemble, il y a un nous qui circule, mais en même temps, il n'est pas clôturé.
Moi, c'est un espace que j'aime bien parce qu'il crée des interactions très fortes entre les gens et assez immédiates. Et c'est pas toujours simple. Mais c'est le moment où les gens parlent entre eux, en fait. Et ces interactions-là, elles sont importantes parce que sinon, en fait, c'est des publics qui se côtoient pas forcément sur le reste du site.
Je trouve qu'il y a un côté square aussi.
Ouais, square, enceinte, c'est marrant, moi on n'avait pas les mots enceinte. On n'avait pas les mots enceinte, mais...
On n'a jamais évoqué ce mot-là.
Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que je remarque dans cet endroit, ce que j'ai appris à découvrir en le voyant vivre, c'est que... C'est l'entrée du site. Tu vois, là, on est assis là, on voit toujours quelqu'un qui rentre et qui commence à regarder à oui. droite à gauche et qui, dans ses 10 mètres de porche, effectivement, passe de la rue à cette enceinte. Je pense que t'as effectivement des séquences, la première séquence où le porche et puis l'arrivée dans cet endroit. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe quand t'arrives, c'est que tu prends un petit coup.
Il y a un arrêt, tu vois.
T'as un peu un arrêt, je crois que tu comprends pas mal de choses quand t'arrives ici. Tu te dis, ok, wow, là, il y a... C'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, il y a un reste de barbecue qui est là. Il y a des plantes. Il y a cet objet là qui est, comme on disait, qui n'était pas là dès le début, qui est venu au fur et à mesure, qui va probablement encore bouger d'ici la fin du projet. Tu as plein de petits pieds d'usage au pied des bâtiments qui donnent dans cette cour. Puis le grand passage qui n'arrête pas de voir ces gens qui soit découvrent pour la première fois, soit vont, comme tu disais, vers passer le deuxième porche après cette première agora. Et j'ai l'impression que les gens se disent quand ils arrivent ici qu'ils sont dans un espace des possibles. Qu'ils sont dans un espace où c'est possible de participer, quoi. Tu te sens inclus à une histoire. Et ça, c'est pas tellement par de l'aménagement dessiné que ça se joue. C'est par la manière dont du petit mobilier, du petit, comme on disait, de la petite accaparation d'un petit espace par certains gens fait qu'on sent que ouais, c'est possible de faire bouger l'endroit.
Mais possible parce qu'on est face à l'immobilier mobile. Et ça, on le voit tout de suite. Que le mobilier il est mobile, donc je comprends que moi aussi je peux changer, je peux choisir donc où je vais m'asseoir, prendre une chaise, la déplacer ailleurs et ainsi de suite. C'est juste avec cette chose simple du mobilier mobile. Et j'imagine que pour des urbanistes qui construisent des quartiers, imaginer du mobilier mobile, c'est très compliqué pour eux, quoi.
Ouais, carrément. Oui, c'est sûr. Mais on l'a tous bien en tête, cette expérience de l'aménagement qui est défini pour un temps long, et donc il doit être défini de manière très solide et plutôt pérenne. Moi, je pense que là, on touche à un point qui a été aussi vraiment quelque chose qu'on a appris et découvert avec cette expérience, c'est que c'est possible d'avoir un espace vivant, modifiable, modulable, dans des espaces comme ça, des espaces qui sont temporaires, et plus pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'on peut expérimenter. On peut expérimenter, c'est, tu vois, c'est pas grave. On est là, on peut chercher des choses, on peut se permettre d'échouer, tu vois. Mmh. On se le dit souvent, mais en fait c'est hyper important. C'est hyper. Tu peux te permettre beaucoup plus de choses quand tu as le droit d'échouer. Et tu as le droit d'échouer parce que tu sais que tu peux refaire. Et tu sais que tu peux refaire parce que les budgets de construction, tu vois, d'un petit banc mobile, bah, c'est pas les mêmes que celui d'un banc qui doit tenir 35 ans. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, on s'est fait comme ça des petites réflexions, des petits moments où on s'est dit, bah, c'est quoi là notre budget d'investissement de nos espaces et à quoi ça correspond. Et en faisant un peu comme ça le regard arrière sur ce qu'on avait fait, on voit qu'on est sur des trucs de l'ordre de entre 10 et 20 euros du mètre carré. Ça comprend un coût de fabrication, des matériaux et de la main d'œuvre, mais ça comprend aussi un coût de maîtrise d'usage, tu vois. C'est le fait d'être là, c'est le fait de pouvoir le modifier, c'est le fait d'avoir un atelier ici, d'avoir des gens qui ont le regard dessus. Parce qu'évidemment, tu peux pas construire un petit truc comme ça en bois de palette et si tu t'en vas, bah, le truc va se détériorer assez vite, tu vois.
Il y a aussi un coût de voirie plus important, j'imagine, parce que ça demande un entretien d'espace plus lourd peut-être, du fait qu'il bouge tout le temps.
Ouais, t'as ce coût de vie, d'entretien, ouais. de suivi. Mais bon, c'est un coût qui est, c'est un coût qui est maîtrisé. C'est pour ça qu'on le prend en compte, tu vois, dans ce coût d'aménagement. Il ne s'agit pas juste de venir me poser un truc et de se dire c'est bon. Non, c'est effectivement ça, il faut du suivi. Mais mis bout à bout tout ça, quand tu compares avec un aménagement d'une grande place parisienne qui a dépensé beaucoup d'argent, en fait, tu es quasiment dans les mêmes ratios. C'est-à-dire que tu pourrais te dire une grande place comme la place de la République, c'est 700 euros par mètre carré. Ça dure peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Là, tu pourrais appliquer ce truc de 10 euros par mètre carré pour la même période avec un truc qui bouge tout le temps. Et avec quelqu'un qui le fait vivre. Et donc expérimenter. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut se dire il faut être en permanence sur un truc qui essaye, qui bouge, qui machin? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça prouve que ces temporalités-là, ces moments-là, ils peuvent exister, ils ne sont pas une aberration économique. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, faites tout ça, et ça va être détruit. Enfin, c'est quand même. C'est vrai que c'est, ça peut être étrange, ça peut être bizarre. On a toujours beaucoup pensé, déjà ça existe, et puis c'est pas tant une aberration que ça. Et puis bon, on voit aujourd'hui, avec un peu le retour d'expérience des grands voisins, 4 ans, 5 ans après, que tout le monde est convaincu maintenant de ce truc-là. De se dire que, au moins sur un temps, fonctionner comme ça, fonctionner avec de l'expérimentation, des choses qui peuvent échouer, se changer, se réinterroger, ça permet beaucoup plus facilement à tout un tas de gens de s'approprier ce que c'est que l'espace commun. Et donc ça permet... soit déjà de mieux vivre ensemble sur ce temps-là et de mieux préparer ce qui pourrait être un aménagement définitif.
Et je pense aussi que ça me donne ça permet d'intégrer les gens dans leur environnement et qu'ils se questionnent aussi sur leur environnement, comme ça change tout le temps. Les personnes qui vivent ces espaces, elles se disent tiens, ça a changé et je peux peut-être avoir. Je peux peut-être apporter moi aussi du soin à cet espace parce que je le vis quotidiennement et j'ai un regard là-dessus. Qu'est-ce que je pense de cet aménagement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça arrive peu souvent dans les espaces publics, en tout cas dans lesquels on est plus de passage. Ici, c'est un espace qui est à la fois public et à la fois privé. Mais sur lesquels les gens ont l'impression ils ont une prise, quoi. Si jamais ils ont envie de le modifier, s'ils ont envie que ça soit différent, on peut les écouter là-dessus et ils seront entendus. Et, Et ça, je trouve que c'est important dans l'appropriation de l'espace, le soin aussi que les gens mettent à réfléchir à eux, la manière dont ils ont envie de les utiliser, dont ils ont envie de les voir, dont ils ont envie de... Voilà. Je pense que c'est important, important parce qu'aussi, c'est aussi... En fait, nous, on s'occupe des espaces, mais les gens qui les occupent y apportent un soin aussi. Et ça c'est quelque chose qui existe rarement dans la ville, à part dans les bas d'immeubles qui sont un peu clos et un peu... ici, c'est vraiment un espace public où les gens prennent soin, quoi.
Vous pouvez aller dans un autre endroit ?
Ouais. Moi, c'est hyper... c'est hyper intéressant, c'est ouais, le rapport à ce que tu as à vivre à un endroit, c'est est-ce que tu en es consommateur ou est-ce que tu fais partie de la production, tu vois. Et dans quel genre d'espace ça peut arriver, ouais, c'est intéressant de se dire que c'est tout d'un coup dans un truc qui peut un petit peu faire appartenance.
Oui.
Ah ouais. Et en même temps, il faut que ça soit ouvert, tu vois.
Voilà, oui, c'est des porches.
Ouais.
Ouais, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, si on ferme ce porche, si on ferme les deux porches, on a exactement, ça y est, les quartiers privés.
Ouais, ouais.
En fait, je trouve que...
Ça se joue à peu de choses.
Ça se joue à peu de choses. Ouais. Ça se joue à peu de choses. C'est juste... Finalement, il y a quelque chose d'intéressant dans le quartier privé, dans cette idée que finalement, bah, ceux qui habitent l'enceinte du quartier privé s'approprient et participent à la production de l'espace commun. Mais c'est juste qu'il est... Ouais. Réservé en fait, totalement. Et que là, il y a juste cette chose de ouvrir deux porches pour que d'un seul coup, on passe du, non pas du l'espace réservé, mais peut-être un espace fait pour, mais ouvert.
Et tu vois, si on allait. S'il y a un truc que j'aurais trouvé super, et qu'on n'a pas pu faire, c'est d'ouvrir, tu vois, ces anciennes ouvertures qui étaient dans le porche.
Les deux portes là.
Ouais, les deux anciennes portes. Elles existent dans les deux porches. Et je trouve que ça aurait été encore plus ce symbole d'imbriquer les espaces. On aurait passé ces deux porches avec cette cour des possibles au milieu. Et puis au moment où tu passes les porches, bah, tu passes aussi un petit peu dans les bâtiments. Et là, t'as un espèce de triptyque assez génial. Mmh.
Alors je voulais vous amener donc ici. Je ne sais pas comment s'appelle ce chemin. Il a un nom ?
Non, pas vraiment. On l'appelle la passerelle oratoire. Mais
On a donc sur notre droite le bâtiment de un des bâtiments de cour oratoire et cour Robin, qui est un bâtiment très très long. Le passage fait à peu près 1m20, même pas ? Ouais, 1m20 on va dire. À peu près 1m20. Et sur notre gauche, c'est une grande palissade en bois et qui se prolonge avec des petites poutres très haut vers le ciel. Et donc, c'est comme si nous avions à notre gauche un autre immeuble, mais qui est en suggestion. Et on a donc quelque chose d'une petite ruelle qui nous donne à comprendre qu'on va aller vers quelque part peut-être plus réservé, peut-être plus intime, peut-être plus caché. Et donc ici, on quitte un espace d'agitation, on quitte un espace de foule pour aller vers un endroit d'une densité plus petite. Et on arrive sur le cours de la chapelle qui est, en fait, effectivement, un espace plus réservé, plus intime. On passe derrière les cuisines de l'oratoire, quand même, passe derrière les cuisines du restaurant. Donc il y a ce côté arrière-cour et on arrive à Cour de la Chapelle. Et je ne sais pas si vous l'avez imaginé comme ça, c'est pas uniquement de comment on se protège du chantier qui est juste derrière, mais c'est peut-être comment on accède à la Cour de la Chapelle. Et j'ai l'impression qu'il y avait une réflexion de se dire qu'est-ce que ça veut dire aller à la Cour de la Chapelle.
J'ai l'impression que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. On n'avait pas trop décidé les choses au départ. C'est aussi une question de place du chantier qui a pris plus de place que ce qu'on voulait. On a essayé de repousser un petit peu cette barrière pour avoir un passage plus, plus large. Mais on n'a pas réussi, nous, du coup, il y a cette allée là qui mène, qui est ici aussi pour des raisons de sécurité, d'évacuation, voilà, mais qui est aussi une manière de pouvoir accéder à tous les bâtiments, enfin tout le long du bâtiment, à toutes les entrées dans le bâtiment.
Il nous fallait aussi une contrainte technique de gestion de cette croix arrière de la cuisine, tu vois, là il y a les poubelles qui passent, il y a un côté un peu passage de service.
Ouais,
bon. Ouais, ça c'est, tu vois, initialement, tu te retrouves avec ça, t'es un peu contraint de ça. Et puis après, qu'est-ce que t'en fais? Et je trouve que la réalisation qui a été faite avec ces tasseaux colorés qui prolongent la palissade en bois, qui est, voilà, c'est la palissade en bois dont tu parles, qui fait 1m90, c'est pareil, c'est un élément plutôt qui est plutôt d'ordre technique. Alors tu vois, on met des petits joints creux entre les bois, c'est des petites attentions comme ça, mais ça permet de pas se sentir complètement enfermé dans un truc, puis de glisser un œil. Mais t'as ce geste qui est venu après, ça peut nous permettre de parler de comment on réfléchit l'espace. Pour le coup, je suis architecte, Marion est architecte, on a notre culture. Et on a toujours eu la volonté qu'il y ait aussi des artistes qui soient là pour parler des espaces et pour agir dessus. Ça peut paraître un peu facile comme ça de le dire comme ça, mais enfin, c'est jamais simple parce que tu vois, il faut quand même. Il y a tout un côté où il faut s'occuper des choses comme des passages de sécurité incendie, il faut quelqu'un pour le faire. Et puis se dire, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un en plus pour le faire, c'est jamais évident, il faut le trouver dans les budgets. Non. Mais voilà, du coup, on a ici l'exemple de ce que ça peut produire. Et cet tasseau-là, c'est du matériau qui est récupéré d'une ancienne œuvre, notre artiste. On a récupéré le matériel, les gens qui sont occupés ça ont récupéré les tasseaux et les ont mis en œuvre d'une manière complètement différente, en prolongation complètement verticale de cette palissade qui forme qu'une espèce de, comme tu as dit, une façade ajourée et qui nous met dans cette situation d'être à la fois dans une ruelle mais à la fois ouvert sur un truc qui est en transformation. C'est magique.
C'est magique. C'est magique.
Et ouais, donc c'est le passage qui est, c'est cette espèce de passage arrière où moi j'adore voir. Quand je passe par là, j'adore regarder les cuisines du resto, effectivement, tu peux discuter, c'est un endroit génial.
C'est magique, parce qu'une ruelle, ça peut être oppressant, mais là, avec cet tasseau ajouré, ça fait que cette ruelle, elle continue d'être accueillante.
Moi, cette ruelle, elle me fait beaucoup penser aux ruelles, je sais pas, en ville, dans les quartiers où il y a des petites maisons avec des petits jardins de fond de cour. Les ruelles de fond de jardin où tu peux un peu regarder, tu as des espaces un peu secrets où tu peux un peu regarder par les interstices entre les planches des palissades, donc tu peux jeter un œil mais c'est quand même un peu secret et j'aime bien ce côté là où oui, tu peux jeter un œil dans les cuisines de l'oratoire et en fait c'est comme des cadres sur des moments de vie un peu plus intimes et un peu plus privés auxquels tu n'as pas accès en fait sur les autres endroits du site parce que c'est une ruelle des secrets quoi.
Et qui nous amène à un endroit intime et un peu plus voilà. Secret des grands voisins, donc je pense que c'est une bonne manière pour aussi rentrer chez soi.
Ouais, c'est un des deux moyens d'aller à la cour de la chapelle. T'as le premier dont t'as parlé, là, à travers ces espaces tampons, de la ressourcerie, et puis de ce qui est aussi la maison des voisins, hein,
ouais.
si t'es rentré dedans. Et ce parcours arrière qui peut nous amener jusque-là. Moi, je pense que quand tu fais ça, c'est un peu une surprise.
Ouais.
Tu t'attends pas à tomber sur la cour de la chapelle.
C'est ça, c'est les endroits surprenants de l'espace. Enfin, mais c'est agréable d'être surpris, d'avoir encore la possibilité d'avoir des espaces qui te surprennent dans un espace où tu pensais avoir un peu fait le tour et en fait non, il existe encore des endroits cachés.
C'est une bonne heure pour arriver à la cour de la chapelle.
Ouais.
Hyper calme, avec ce petit rayon de soleil qui arrive. Super.
Complètement, ouais. Là, c'est le petit matin, c'est vide. Je crois que c'est la première fois que j'arrive cours de la chapelle et que c'est aussi calme. C'est la première fois.
Bah ouais, étonnant endroit.
On a encore un peu de reste de mobilier en bois, mais on a aussi du canapé. Et donc, le canapé, c'est le salon. C'est du mobilier domestique qui passe en cours. Et donc, quand on a ces choses-là, le canapé, les fauteuils qui sont pourtant les fauteuils de la ressourcerie, on comprend tout de suite qu'on est bien là, un peu chez des gens quand même.
Ouais, ouais, on le sent, t'as raison. Ouais, mais c'est drôle. T'as ces... Allez, il y a 1, 2, 3, 4 petites alcôves comme ça, qui sont contre les murs mitoyens. Et c'est un peu comme 4 petits salons.
Oui.
Ouais. Il y a une espèce de tapisserie mis au mur, là, comme si on voulait vraiment recréer un côté de... Comme si c'était un éclaté de petite maison, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est beau.
Comme trois... comme un, deux, trois cabanes.
Ouais.
C'est quand même... C'est assez magique, ça.
Mmh. Bah ouais. Ouais, c'est super.
C'est drôle parce que c'est un espace assez complexe ici pour nous. C'est un espace qu'on maîtrise très peu. Donc, à la fois, c'est assez plaisant parce qu'il s'y passe des choses sans qu'on ait à y intervenir. Et en même temps, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui s'y passe sur les aménagements. Tu vois, nous, on est là pour laisser la possibilité, en tout cas, faire que les espaces ne se privatisent pas. Et ici, ça se privatise de fait, par l'usage et voilà. Et du coup, ça nous pose beaucoup de questions sur comment gérer ces espaces-là qui, et en même temps laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire et de laisser la liberté d'exprimer aussi la manière dont ils ont envie d'habiter l'espace. Et moi, c'est vraiment un espace qui me pose plein de questions là-dessus.
On rejoint la discussion qu'on avait sur les trous nécessaires pour qu'il y ait du jeu à l'échelle du site. J'ai l'impression que c'est ici le trou nécessaire pour qu'il y ait du jeu et de la respiration sur l'échelle du site.
Et c'est drôle, ça s'est vraiment fait avec le temps. On n'avait pas décidé forcément de ne pas investir cette cour. Si au départ un peu.
Ouais, bah oui, c'est ce qu'on disait. J'étais dit qu'il allait y avoir moins de public ici.
Ouais.
Que ça allait être quelque chose qui allait être pas défini. On a vraiment. Tu vois, on n'a pas mis de mots ici, on n'a pas mis, on n'a même pas mis, c'est l'espace des voisins. On s'est dit, on verra plus tard. Et effectivement, on verra plus tard, ça a été privatisé. Ça a été l'objet de convoitise, ça a été l'objet de... les autres espaces sont plus définis, plus contrôlés, quelque part, plus organisés. Il y a ce maire du village qui est là et qui essaye d'être au centre des discussions. Et ici, c'est l'espace tampon, c'est l'espace libre, c'est l'espace où il n'y a pas de mots définis. Et donc, c'est l'espace des possibles pour moi. Et c'est effectivement, comme dit Marion, à la fois super, on trouve ça génial, et à la fois, ça demande beaucoup de gestion pour nous. Ça demande beaucoup d'être à la fois là sans être décisionnaire. Et ça, c'est une expérience.
Oui, parce que c'est l'espace où, par exemple, on peut faire, s'y fait les anniversaires.
Oui.
Par exemple. Et c'est important. C'est l'espace où peut s'y faire les barbecues d'immeubles. Et c'est important, ces espaces-là.
Ouais, c'est super important. Ouais.
Et cette question de la... Du maire qui a aussi, on a parlé des questions de sécurité là, quand il passait. Bon, c'est cette question du maire, il a une responsabilité à l'échelle de son territoire, il doit pouvoir avoir, d'une certaine manière, une maîtrise de l'usage de l'échelle du territoire. Ça pose la question de qu'est-ce que la responsabilité ? Est-ce que la responsabilité, c'est une maîtrise de l'intégralité des usages ? Ou est-ce que j'endosse des formes de responsabilité
pour des espaces que je ne maîtrise pas ?
Pour des espaces que je ne maîtrise pas.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Ça, c'est...
Bah, c'est le jeu, les jeux de va-et-vient entre ces choses-là.
Oui. Quelle place on laisse à la spontanéité des usages. Mais je trouve que ça pose aussi d'autres questions, parce que le fait de laisser faire, ça veut dire que les gens, les personnes qui investissent l'espace, c'est aussi les personnes qui s'expriment le plus. Et ça veut dire aussi que dans ces espaces-là, il y a d'autres personnes qui habitent ici, qu'on voit très peu, qu'on voit sur les autres espaces parce qu'ils ont la place, mais qui s'y viendront jamais. Et c'est dans ce sens-là que moi que ça me pose plein de questions. Parce que je trouve que, du coup, quand c'est un peu moins maîtrisé, il y a toute une partie de la population qui pourrait l'utiliser, qui s'y sent pas forcément à l'aise.
Par exemple, l'espace est très masculin.
Voilà, exactement. Bah, c'est un peu vers ça que je voulais venir. Il y a un centre d'hébergement qui s'appelle Cœur de Femmes, qui est dans ce bâtiment, et qui vient beaucoup à la maison. Enfin, il y en a certaines qui viennent à la maison des voisins, mais on les voit très peu dans cet espace, parce que je pense que c'est compliqué pour elles d'investir ces lieux. Alors que dans les autres espaces, elles peuvent plus facilement se fondre dans le paysage. Et je pense que ça met ces questions, enfin ces questions-là en jeu, de l'appropriation de l'espace, qui fait aussi que ça, l'appropriation de l'espace fait que les autres personnes ne peuvent pas non plus venir. Et je sais pas comment me positionner là-dessus. Je suis pas encore. Nous aussi, on teste des choses et on voit comment ça se passe. Et après, je pense pas qu'elles en souffrent forcément, et que ça soit un mal, en fait, c'est pas forcément... Parce qu'en fait, il y a des personnes qui investissent ce lieu-là, et ils ont envie de le faire, et tant mieux, en fait. Mais je pense qu'il faut faire attention de laisser la place à tous.
C'est intéressant, parce qu'on peut voir qu'un espace, il peut être dominé par l'emprise du marché, mais il peut être dominé par l'emprise de la domination masculine, et que c'est pas parce qu'on retire le marché qu'on a de la liberté. Et donc, voilà, là, ici, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire, c'est pas un espace commercial, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'activité économique. Mais il y a une autre forme de domination qui est plus masculine. Dans d'autres espaces, on va avoir plus une domination du marché. Donc, c'est assez intéressant.
Ça. C'est exactement... Ouais, c'est de la matière, tout ça. Ouais. C'est de la matière à se mettre en situation. Et puis voir comment ça se passe. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, aussi, là, dans ces genres d'exemples qu'on est en train de donner, c'est comment cet espace-là peut regarder l'espace de la cour d'à côté, et comment la cour d'à côté peut regarder cet espace-là. Et comment chacun, on peut se dire un peu ce qui ne va pas chez l'autre. Ouais. Quoi, tu vois.
C'est pour ça que je trouve que le passage de la ressourcerie est un passage intéressant sur ce jeu de miroir, et que le passage de la ressourcerie peut être un jeu de regard qui peut être assez intéressant. Est-ce que je peux vous amener dans un dernier espace ?
Oui.
Allez.
Alors, on va aller dans l'espace qui va fermer. Un espace que les grands voisins vont perdre. On est où là ?
On est au pied du bâtiment Colombani, dans la partie qui a ce qu'on appelle les cours anglaises. Et ces cours anglaises, c'est une des grandes caractéristiques architecturales du site. Parce que là, on ne le voit pas, mais sur tout un tas d'autres bâtiments, il y a ces cours anglaises. Donc, ce décaissement du niveau du sol vers un niveau souterrain, mais qui du coup a quand même accès à la lumière. C'est toujours des espaces un peu entre l'angoissant et l'attrayant, je trouve. Bon, on n'a pas eu, tu vois, ici on n'a pas réussi à l'investir. On n'a pas eu le temps. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que d'ailleurs, enfin, c'est Agnoli Beltrando, l'urbaniste du site, qui a toujours dit que c'était un des trucs intéressants architecturalement de ce site et qu'il fallait le garder. Et qu'il fallait trouver le moyen de le faire vivre dans le projet définitif. Ouais, il nous faudrait un ou deux ans de plus pour tester les manières de vivre ces trous-là.
Ici, ce qu'on voit, c'est pas de la appropriation au sens de la privatisation, mais c'est le squat. Où il s'est passé des choses, mais de manière très éphémère.
Quand on voit cet endroit, on a envie d'y faire des trucs, on a envie de se dire... On va descendre. Il y avait un endroit qui ressemblait un peu à ça dans notre premier temps d'occupation. C'est un truc qu'on avait appelé le théâtre de verdure. C'était un peu moins sauvage, mais c'était de la même manière un peu le temps qui avait repris le dessus sur un espace décaissé comme ça et qui formait un espèce de petit théâtre, un petit enclave dans lequel, avec assez peu de moyens, on avait mis. On s'est dit, bah là, on peut avoir une petite scène de théâtre, une petite scène de concert intimiste. Mais forcément, le fait de l'aménager comme ça, bah, ça fait que tu peux plus vraiment en faire un squat, c'est sûr. Et est-ce que tu peux prendre la décision comme ça de se dire, bah non, cet espace-là, faut le laisser comme ça, un peu crade, un peu à l'abandon. Peut-être que oui, peut-être qu'il faut rentrer ça dans les habitudes de nos têtes.
C'est drôle, c'est un peu le témoin aussi du début de l'occupation, où on a laissé faire les choses et où on n'est pas intervenu. Et c'est drôle, c'est vraiment un témoin de cette non-occupation, un des seuls espaces qui reste comme ça, où vraiment indéfini. Mais il est très peu occupé, moi j'y viens très peu dans cet endroit, et je pense que très peu de monde y vient. C'est très rare quand il y a des personnes du site qui y viennent. Je pense que du coup c'est un endroit vraiment caché.
Et ici, quand je suis arrivé au Grand Voisin il y a 3 jours, et on a fait un petit apéritif ici, avec les occupants étaient là.
C'est ça, ouais, c'est habité quand même.
C'est habité quand même. Ouais. Et alors, c'est une habitation particulière ici, celle dont on n'a pas encore parlé, sont les occupants artistes. C'est une occupation artiste et je trouve ça assez intéressant que cet espace qui est plutôt du côté du squat soit l'espace qui est aussi celui des artistes. Je trouve ça assez intéressant, quoi. La question du squat, elle soit plutôt là où les artistes ont leur atelier. Quoi.
Ouais. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui peuvent se prévoir ?
Non.
Non, hein ? J'ai l'impression.
Non.
Est-ce qu'on peut se mettre en situation que ça arrive ?
En tout cas, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a des jonctions possibles, c'est-à-dire effectivement, par exemple, un squat cour de la chapelle, c'est-à-dire un squat en pied de résidence, c'est peut-être pas bon, quoi. Un squat en pied d'atelier d'artiste, c'est peut-être intéressant parce que c'est peut-être les artistes qui le génèrent, ce squat. Ce squat, il n'est pas venu Déstabiliser le site. Exactement. Peut-être qu'un squat cours de la Chapelle, il pourrait peut-être déstabiliser le site. Ouais. Et ce genre de choses.
On touche aussi, à un truc de... avec le recul, là, comment on parle de toute cette histoire de d'occuper un lieu. D'occuper un lieu avec plus ou moins de rapport avec l'institution, tu vois. Mm. Plus ou moins de rapport avec... être dans un interstice temporel d'un projet de fabrique urbaine, en l'acceptant comme un état de fait, et ces autres projets qui viennent plutôt du squat, tu vois, avec cette histoire, cette grande histoire, et qui vont avoir un autre apport à ce que ça peut créer. Je pense qu'on n'est pas au bout d'interroger ces questions-là dans l'endroit où on est. En tout cas, on sait qu'on voit qu'il se passe quelque chose d'assez semblable et d'entièrement différent.
S'arrête là ?
Ouais.